Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur France Culture pour ce quatrième volet des entretiens à voix nue avec le philosophe Clément Rosset, consacré cette fois-ci à la question de savoir qui sont ces pères spirituels. Car la philosophie marche au coup de foudre. Au début, il y a toujours un moment de charme où le néophyte, le nouveau venu, s'émerveille comme devant son propre reflet des livres qu'il parvient à comprendre. On entre en philosophie comme en amour par la découverte stupéfiante d'un être qui, alors qu'on l'entend pour la première fois, semble pourtant familier. Cette expérience, fondamentale, Clément Rosset vous l'avait faite à deux reprises. D'abord avec l'abominable Schopenhauer, le prince du pessimisme, le maître à penser des mal-pensants, et puis, un peu plus tard, avec le divin Spinoza, le philosophe serein de la joie malgré le monde. Alors de ce mélange, de cet alliage bizarre entre la mauvaise humeur et la béatitude, il résulte une pensée singulière, qui, pour le pire et le meilleur, va du tragique à la joie, en parlant avec gravité des choses légères, mais surtout avec légèreté, des choses les plus graves. Reste que, Clément Rosset, la question se pose toujours, pourquoi Schopenhauer et pourquoi Spinoza ?
Ah, ben Schopenhauer, c'est un petit peu le hasard, enfin c'était la rencontre avec Schopenhauer et le fait du hasard, et le fait que j'ai apprécié Schopenhauer et que j'ai subi son influence, là, c'est simplement le fait que je m'entendais avec le contenu de Schopenhauer.
Vous l'avez rencontré quand ?
J'ai rencontré ses livres. J'ai rencontré à très jeune, j'ai rencontré à 14 ans, oui 14 ans j'en suis sûr, pour une anecdote que je vous dirai tout à l'heure, 14 ans, 54. Et il y avait un petit recueil de Schopenhauer dans les nombreuses bibliothèques de ma famille, comme chez beaucoup de familles, puisque on avait hérité, comme tout beaucoup de monde, des bibliothèques du père, du grand-père, et que c'était une époque où l'époque de nos grands-pères était une époque où Schopenhauer, il y avait toujours un petit Schopenhauer qui était dans les bibliothèques. Alors c'était pas un livre, c'était des recueils d'aphorismes sur tel sujet. Et un jour d'ennui comme ça où on cherche un peu, on ne sait pas trop quoi faire, j'ai dit tiens. Aphorisme sur la sagesse, pas sur l'amour de la mort. J'avais lu ça et j'avais été sidéré. À 14 ans, c'est un âge où on commence un peu à s'intéresser à certaines choses. On peut avoir des tourments amoureux qui sont parfois les plus durs qu'on éprouve de sa vie entière. Les premières jalousies, c'est les pires. Enfin, il n'y a qu'à lire Proust. Quoique lui, ça a duré toute la vie. Et alors, j'avais lu avec extase les pages de Schopenhauer consacrées à la libération du vouloir vivre par l'art, les suppléments au livre 3.
Du monde comme volonté et comme représentation.
Du monde comme volonté et comme représentation. C'est consacré donc à la libération, première libération de la douleur de vivre par, il y en a deux autres, mais la
par
première,
l'expérience esthétique.
L'expérience esthétique. Et alors, Schopenhauer décrit l'homme qui assiste un spectacle esthétique, écoute de musique, voit une pièce, enfin n'importe quoi, comme éprouvant une jouissance très particulière, qui est une jouissance entièrement négative, donc pas assez beau, mais tiens, je ne souffre plus. Parce que d'agissant, d'acteur du désir et des souffrances entraînées par le désir, je suis spectateur du désir, et non plus acteur du désir. Et brusquement, l'espace de la grâce, de la contemplation, puisqu'il appelle cela la contemplation, l'espace de la contemplation esthétique, je suis brusquement en dehors de la tempête et dans un lieu d'un calme absolu dont je ne pouvais pas me douter que j'étais à deux pas. Il suffisait de franchir une porte, il suffisait d'aller regarder un Velázquez ou de lire un roman de Balzac, enfin c'était pas tout à fait ce que je faisais à l'époque, mais pour miraculeusement être à l'abri de tout.
Enfin, donc de la même façon que Schopenhauer cesse de souffrir en regardant un tableau, vous-même cessez de souffrir en lisant Schopenhauer qui le raconte.
Voilà, exactement. Et ça m'a fait aller, et je me suis dit c'est la vérité même, il a tout compris. Puis après je suis passé à d'autres vérités, la métaphysique de l'amour et tout. Et puis bon, c'était mon premier contact très jeune, comme vous voyez, avec un texte philosophique. Et alors je me rappelle parce que c'est une anecdote cocasse, mais je me rappelle que c'était en 54, donc j'avais 14 ans, par le fait que je me rappelle que c'était l'année où j'ai fait un voyage, un aller-retour à Rome, avec un groupe dont je ne décrirai pas, c'était une association du lycée Janson de Sailly. Bon. Et il y avait des plus jeunes et il y avait des moins jeunes. Et je m'étais retrouvé à un moment dans un comportement où il y avait une jeune fille qui était dans les encadreuses, plutôt 18 ans, quoi. Et je ne sais pas quel mauvais démon m'avait poussé. Elle avait dû dire des choses. Ah, je vais retrouver Thierry. Je sais pas, ça m'avait agacé. Et alors, j'avais entrepris de lui expliquer que c'était une illusion, qu'elle n'aimait pas Thierry, que Thierry ne l'aimait pas.
Vous lui avez livré la version schopenhauerienne de l'amour.
Je lui ai livré la version schopenhauerienne de l'amour, comme quoi il s'agit d'une aventure qui ne concerne ni elle, ni son Thierry, mais une aventure qui est une ruse de l'espèce, etc. Et alors, elle voulait lutter dialectiquement, en disant, ah, c'est absurde, c'est pas vrai, mais il m'aime, et je l'aime, et il attendrait, c'est tout ça. Et alors, ben, implacablement, comme on est à 14 ans, en fait, je poussais mes pions, mais non, c'est encore une autre erreur,
il faut rappeler quand même que pour Schopenhauer, l'amour, c'est presque un gros mot, tellement ça veut rien dire. C'est-à-dire que quand on dit « je t'aime », la phrase exacte serait plutôt de dire « il y a, dans ce que j'appelle indûment moi-même, quelque chose qui me force à croire que j'aime celle que je tiens indûment pour toi-même ».
Exactement.
Il y a que l'amour n'est pas le siège de l'amour.
L'amour intéresse uniquement l'espèce, et c'est par une ruse inconcevable de la nature, qu'on se un peu parallèle à la ruse de l'histoire chez Hegel, je me représente comme affaire personnelle la chose qui, de toutes les choses, me regarde le moins.
Et je décore de beaux sentiments ce qui témoigne juste de ma lubricité.
Oui, en second lieu. Mais le pire, c'est surtout que je n'y sois pour rien. Je crois que je aime elle, et en fait, ni elle ni moi ne sommes pour quoi que ce soit. Ah non, mais ça, tout ça, je l'avais bien expliqué, j'avais compris.
Et est-ce qu'elle a compris?
Elle a fini par comprendre aussi, la malheureuse. Et alors, il s'est passé cette chose qui m'a ahuri. Elle avait 14 ans, c'est 14 ans, 18 ans, c'est une grande fille, tout de même. Parce que moi, elle a fondu en larmes.
Est-ce qu'il n'y avait pas du ressentiment dans la volonté de raconter
ça? Oui, parce que c'est vrai. Tu vas retrouver dans Thierry, tiens donc. Écoute ça, je vais te raconter une jolie histoire. Oui, j'étais peut-être une méchanceté fabuleuse.
Vous ne l'intéressiez pas, puisque vous aviez 14 ans et qu'elle en avait 18.
Voilà, il y avait de ça aussi, oui, il y avait de ça. Il y avait de ça. Mais quelqu'un qui aurait eu du sang-froid, et qui aurait profité de l'occasion, chose que je ne sais absolument jamais faire. Je suis toujours pris de cours par l'expérience quotidienne. C'est toujours une heure après que je vois ce que j'aurais dû dire, ce que j'aurais dû faire. C'est l'esprit d'escalier, comme on dit. Et un garçon malin l'aurait aussitôt d'abord profité pour sauter, se mettre sur ses genoux, lui essuyer les larmes et lui dire « Mais non, ma grand-mère, c'est pas vrai. Tout ça, c'est des conneries de philosophe. » Et puis à sentir pousser mes pions dans un autre sens, mais là non, c'était non, je m'en veux, c'est très gamin, des gamins sont un peu cons, il faut bien dire.
Alors c'est vrai qu'il y a dans le Schopenhauer dont vous parlez, c'est ça qui est intéressant, c'est que le Schopenhauer que vous aimez, c'est pas tellement le Schopenhauer pour adolescents, c'est-à-dire le prince du pessimisme, celui qui dit que la vie de chacun de nous est une véritable tragédie, qui parle de la souffrance, de la peine en vain, des espérances brisées par un destin impitoyable, etc., etc., et qui nous laisse seulement le rôle du bouffon, c'est pas celui-là auquel vous êtes le plus attaché, alors que c'est le Schopenhauer qu'on connaît quand on connaît pas Schopenhauer. Oui. On connaît Schopenhauer, c'est le pessimiste.
Oui.
Or, vous vous intéressez
à tout le reste.
C'est-à-dire l'irrationaliste.
L'irrationaliste, l'homme pour lequel l'intuition compte avant l'intellect, pour lequel le désir passe avant l'intelligence, la volonté avant la représentation, et qui, pour toutes ces raisons, évoque beaucoup Bergson. D'ailleurs, Bergson ne l'avait, dit-il, jamais lu, mais il en est très influencé. Et puis aussi essentiellement pour cette raison-là, pour cette lucidité et cette mise au pas de l'intellectualisme. C'est un philosophe de l'intuition, et c'est un philosophe qui a profondément compris, avant Nietzsche, après Pascal, parce que Pascal le dit parfois brièvement, que le désir, Spinoza le dira aussi d'ailleurs, que le désir est la grande affaire et que l'intelligence aura toujours deux longueurs de retard.
Donc le Schopenhauer qui vous intéresse, c'est celui qui humilie l'intelligence.
Enfin, humilié, j'aime pas trop le terme humilié, mais l'intelligence, j'ai rien contre l'intelligence. Je dirais comme Montaigne que je l'admire, mais je ne l'adore pas.
Vous le dites de la logique, ça, à un moment.
Oui, de la logique, oui.
Mais par exemple, le Schopenhauer dont on parle, celui qui fait précéder l'intelligence du désir, celui qui fait précéder l'illusion du libre arbitre, d'un jeu de force qui nous fait agir, ce philosophe-là, c'est également le philosophe qui se dit, au lieu de se demander si le monde a une cause, demandons-nous d'où nous vient le besoin de lui en attribuer une.
Oui, alors, le besoin d'attribuer une cause, bon, alors là, sur ce point-là, Schopenhauer, je pense, ne se pose pas vraiment la question, dans la mesure où c'est pour lui une évidence que le monde est absurde, qu'il est grundlos, qu'il n'y a pas de cause du monde. D'ailleurs, je ne sais pas comment il l'affirme, parce qu'il faut en savoir long pour affirmer ça, après tout. C'est une question qui dépasse notre entendement, bon. Mais, c'est pour lui une absurdité. Alors, il lui arrive parfois de dire, ah, si on pouvait savoir la cause, mais on ne la connaît pas. Mais il s'accommode parfaitement de ce côté, provisoirement et à jamais peut-être, grundlos absurde. Et c'est la raison pour laquelle une des choses qu'on peut dire de Schopenhauer aussi, c'est que il a préfiguré complètement l'existentialisme. Le fait que l'existence précède l'essence, le fait que le monde soit factice, que l'existence soit factice, pourquoi une mouette au-dessus de Bouville? Je considère La Nausée comme un roman de jeunesse de Schopenhauer.
Alors, il faut rappeler que dans La Nausée, qui est donc le roman de Jean-Paul Sartre auquel vous faites référence, il y a un passage dans lequel Sartre parle des mouettes, et où il inverse les termes de la proposition. C'est très intéressant, c'est-à-dire qu'au lieu de dire « ce sont des mouettes », c'est-à-dire « je le désigne comme tel », il dit « les mouettes sont ». Ce qui change tout,
Tout, oui.
Et pourquoi ça change
l'étonnement, tout c'est l'étonnement devant l'existence, purement le simple fait d'exister, qui n'a pas de cause. C'est le thème de Schopenhauer, c'est l'existence grundlos, sans raison, sans origine, sans fondement.
Schopenhauer dit à un moment « avoir l'esprit philosophique, c'est être capable de s'étonner des choses de tous les jours ». Et de se poser comme objet d'étude, comme sujet d'étude, ce qu'il y a de plus général et de plus ordinaire, ce que vous faites en permanence.
Oui, ce que fait Platon aussi, hein, l'étonnement, c'est tout, beaucoup de gens l'ont dit. Enfin, il est certain qu'il y a un étonnement devant le fait qu'il y ait de l'existence, éclate chez Sartre et qui est entièrement présent chez Schopenhauer. C'est pourquoi j'ai écrit mon mémoire de maîtrise, c'était avec Jean Gradivitch, s'appelait Schopenhauer, philosophe de l'absurde. C'était le concept clé, m'a-t-il semblé. Mais alors, ce sont des aspects parmi beaucoup d'autres qui m'intéressent dans Schopenhauer. Parlons peut-être maintenant, si vous voulez, un peu, justement du fait que je ne m'intéresse pas du tout au thème du pessimisme. Non seulement je ne m'y intéresse pas, mais c'est un thème que je trouve superflu et qui me gêne dans Schopenhauer. D'ailleurs, ça avait gêné Nietzsche également, qui, après avoir admiré Schopenhauer infiniment.
Il y voyait une relique de théisme.
Mais il voyait, oui, une relique. D'ailleurs, il le relie au bouddhisme. Mais Schopenhauer. Mais Nietzsche, je crois qu'il y aurait. Nietzsche a beaucoup puisé chez Schopenhauer. Je pense que Nietzsche n'aurait pas été tout à fait ce qu'il a été s'il n'y avait pas eu Schopenhauer. Mais il est certain que la divergence, c'est le dionysiaque, c'est l'affirmation de la joie. La joie est plus profonde que la tristesse. C'est la fin de Zarathustra. Bon, on en reparlera demain. Mais c'est le contraire de Schopenhauer. Le dernier mot, c'est la tristesse.
Pour Schopenhauer.
C'est le dernier mot. Et la sagesse, c'est d'assumer la tristesse et d'essayer de ne pas trop souffrir. Bon, alors ça, ce Schopenhauer-là, c'est très important pour lui. C'est son point d'arrivée, son but. Mais c'est pas du tout le mien. Je prends tout de Schopenhauer, sauf ce point qui, pour lui, était essentiel. Et alors, puisque nous parlons de moi, vous me faites l'honneur de parler de moi pendant ces après-midi, eh bien, je vous dirais que il y a, après que Schopenhauer eut sombré un peu dans l'oubli, j'ai un peu contribué à le réveiller. Ses écrits sont très anciens. Aujourd'hui, il est plutôt à la mode. Combien d'écrivains
Il est à la mode pessimiste.
À la mode pessimiste.
C'est le pessimiste qui revient toujours. C'est le plus facile à comprendre.
C'est le mode surant, le pessimisme chic, comme disent les journalistes parfois. Et alors, bon, on pourrait citer Houellebecq, je sais pas, surant, Jacques Carr, enfin toutes sortes d'écrivains qui renchérissent sur le pessimisme, la vie ne vaut rien, pour ce que c'est que de nous et tout. Alors sur ce point, souvent des journalistes étrangers vous font français, mais dans ce clan, dans cette famille-là, alors que j'en suis pas du tout.
Mais pourtant, Clément Rosset, on va parler de la joie. Mmh. On va parler de la joie, puisque dans votre œuvre, il y a un texte, à mon avis, majeur, comme son nom l'indique, qui s'appelle La Force Majeure, qui décrit la joie. Mais avant d'en venir à ça, vous dites que vous n'êtes pas du côté des pessimistes. Mais un jour, vous m'avez raconté que vous étiez dans le métro avec Cioran, et qu'il est saisi de sanglots. Et alors, comment
non,
ça
non,
se passe?
Non, c'est pas exactement ça. Mais lui était franchement pessimiste et angoissé. Et c'était pas de la frime, son pessimisme. Hein. Et il riait beaucoup et on pouvait se raconter des histoires, des blagues. Et c'est un bon vivant dans un sens. Mais il était angoissé et profondément pessimiste.
Mais l'histoire?
Alors, l'histoire, c'est... Bon, je l'ai connu 15 ans, je le voyais une fois par an, on discutait beaucoup, on se racontait toutes sortes d'histoires, et j'allais chez lui, on se promenait. Une fois dans le métro, alors jamais nous n'avons échangé un mot concernant la philosophie, pas une seule fois. Et un jour, bon, entre deux stations de la ligne 6, métro aérien, je sais pas pourquoi je dis à ce rond, mais je vous avais jamais parlé de ça, mais vous savez, j'ai l'air d'aimer la vie, tout ça, d'être... de louer l'existence, c'est vrai. Mais, en dehors de ça, il n'y a pas une phrase que je n'ai lue de vous avec laquelle je ne sois pas d'accord.
Donc vous êtes d'accord avec l'idée qu'on se suicide toujours trop tard, que toutes les eaux sont couleur de noyade?
J'exagère un tout petit peu, mais je veux dire, les raisons qui font que, aux yeux de ce rang, la vie est désespérante, moi, je dépasse ce point de vue, ou je change de point de vue, en disant que la joie quand même. Alors, mais la réponse de Cioran, c'est... Alors, je dis à Cioran, au fond, tout ce que vous dites, c'est exactement ce que je pense. Et Cioran m'a fait cette réponse très drôle, avec son accent roumain impayable. Et elle avait l'air de se lamenter. Mais évidemment, c'est la vérité. Si ça avait pu ne pas être la vérité, il aurait été tout content.
C'est ça le problème du pessimiste, en fait. C'est que le pessimiste, c'est quelqu'un qui, si Dieu existait, il se hâterait d'y croire.
Oui.
D'une certaine façon, si Dieu existait, vous n'y croiriez pas davantage, vous. En tant que joueur, vous n'avez pas besoin de Dieu pour être joyeux.
Non.
Le problème du pessimiste, non. C'est que si Dieu existait, il ne serait pas pessimiste.
Ça, je vous ai expliqué justement dans La Force Majeure. Et j'ai un passage où je vous explique que quand même il y aurait un Dieu, quand même nous aurions l'éternité, ben, ça ne changerait pas le problème parce qu'on serait éternel comme tout le monde. On serait tout de même quantité négligeable, quoi. Parce qu'au fond, le problème fondamental du pessimisme, c'est qu'il sent qu'il n'est rien. Au gré de l'immensité du temps, de l'espace, il faudrait l'éternité. Mais à plusieurs reprises, dans des écrits de jeunesse notamment, il dit parfois qu'on me donne un autre monde où je succombe, mais parfois il dit aussi qu'on me donne un Dieu et ça ira. Il a écrit des livres qui sont quasiment théologiques dans sa jeunesse, des larmes et des saints, etc.
Et c'est lui qui disait quel dommage que pour aller à Dieu, il faille en passer par la foi.
Oui, oui, des choses comme ça, oui, oui. Mais oui, cela dit, pour moi, l'hypothèse de Dieu, bon, pourtant qu'elle ait un sens, n'arrange pas les choses. Plus on pense, moins les choses s'arrangent, en fait, n'est-ce pas? Plus on pense, plus tout est indéfendable. Mais, disons que c'est une petite plaisanterie. Mais ça ne veut pas dire que j'exclue absolument l'idée de Dieu. Tout comme Hume, j'estime que la question d'un Dieu ou de pas de Dieu, d'une raison ou de pas de raison à l'existence, sont des problèmes qui dépasse complètement l'entendement humain. Et que c'est être bien sûr de soi que de dire il n'y a pas de Dieu. Moi, je trouve que c'est déjà une forme de fanatisme. Qui vous l'a dit hein.
Il y a un philosophe qui, plus encore que Schopenhauer, donc influence votre travail, et qui a le mérite justement de concilier, en tout cas quand on le lit, en tout cas c'est l'expérience que j'en avais fait et que d'autres ont fait aussi, concilie quelque chose de désespérant, l'idée que le monde n'a pas de sens, l'idée que nous ne sommes pas à l'origine de nos actes, l'idée que Dieu n'est pas un individu qui viendrait régenter nos existences et auquel il suffirait d'obéir pour ensuite être content en cette vie, etc., etc. L'idée qu'il n'y a pas de vie au-delà de la vie, pas d'être au-delà de l'être. Bref, qui concilie ce désespoir et en même temps la considération ultime de la joie et ce philosophe qui tient les deux bouts de la chandelle. D'une certaine façon, c'est Spinoza.
C'est pourquoi je suis avant tout spinoziste. C'est pour moi un peu le philosophe de la vérité absolue et sa recherche philosophique qui n'est pas le vrai, puisque le vrai nous ne connaîtrons jamais. Mais la sagesse, c'est-à-dire un art de coïncider totalement, mentalement et physiquement, par le désir et par la lucidité, avec la réalité.
Ce que vous appelez l'allégresse, vous.
Oui, ce que j'appelle la grève, enfin, bon, c'est une espèce d'adhésion et d'accommodement total de la pensée avec la réalité, avec c'est la substance chez Spinoza, hein, la substance qui est à la fois matérielle et non matérielle. Enfin, tout est admirable chez Spinoza, bien entendu, mais un des points les plus importants, c'est évidemment c'est de représenter l'effort philosophique comme un chemin vers le bonheur, vers la laetitia, la joie absolue et l'élimination de toute tristesse.
Mais pourtant, il faut partir de la tristesse, ou en tout cas de la considération désespérante la vie n'a pas de sens.
D'où le livre 4, les passions humaines, d'où le début du livre 5.
On parle de l'éthique, livre de Spinoza.
Oui. Ah oui, c'est le livre des livres, c'est-à-dire celui où le dernier mot philosophique est atteint. Alors on passe par mille choses, par des critiques de l'illusion, par les critiques de l'anthropomorphisme, mille critiques de faux concepts, fausses notions, la critique des passions tristes et leur conversion en passions joyeuses, sans que cela modifie en rien l'ignorance où nous sommes du dernier mot des choses, que seul connaît Dieu. Sive natura, soit la nature, soit la substance, mais nous n'aurons pas accès, nous, au savoir.
Oui, parce que la grande phrase de Spinoza, en tout cas la phrase qu'on cite le plus souvent, qui se trouve dans la proposition 29 de la première partie, qui est, c'est Deus sive natura, c'est Dieu, c'est-à-dire la nature.
Oui, oui, oui.
C'est-à-dire
oui.
Qu'en d'autres termes, il n'y a pas de Dieu au-delà
de l'être. C'est toujours la critique de l'anthropomorphisme. La notion d'un Dieu... personnalisé, enfin, si je puis dire,
à grande barbe,
est une idée. Voltaire déjà n'a pas dit autre chose. Hein. C'est une illusion anthropomorphique. On fait Dieu à l'image d'un homme, comme nous faisons des volontés de la nature ou des mécanismes de la nature tout ce qui se passe comme voulu. Comme si c'était voulu par l'homme.
Dans vos livres, il y a constamment une dimension ontologique, un discours sur l'être, ce qu'il est, ce qu'il n'est pas, comment le fuir, pourquoi le fuir, qui le fuit, ce qu'il en reste une fois qu'on a éliminé ce qui permet de le fuir, etc. Et cette dimension ontologique est toujours subrepticement, subtilement, soit à la fin des paragraphes, soit dans des petits chapitres ensuite, etc., doublée de passages éthiques, soit pour critiquer des morales absolues, soit pour faire l'éloge de vertus comme la gentillesse ou la générosité. Vous avez cette dimension-là qu'on trouve chez Spinoza. Dans vos ouvrages, on a toujours ces deux morceaux.
Ah oui, tant mieux. On est vraiment trop aperçu, mais si vous le dites, c'est possible qu'il y ait impliqué...
Prenons par exemple les 5 petites pièces morales.
Oui, ça c'est un petit peu une crise de nerfs. C'est un peu une crise de nerfs que je regrette un peu... Bon, il est vrai que tout jeune, avec la philosophie tragique, tout premier livre, j'ai opposé, et je fais toujours par la suite, une opposition entre les puissances qui nous permettent d'adhérer ou de nous accommoder de la réalité et d'accepter de la tragédie de la réalité et de l'accepter gaiement, et les puissances qui nous dissuadent d'accepter cette cruauté, mais aussi la joie qui peut l'accompagner, donc de réfuter la réalité, tout simplement, et que j'assimile non pas à l'éthique, mais à la plupart des constructions d'ordre moral, comme la morale kantienne, ou cette morale qui surgit sans cesse dans Platon. Maintenant, mon tort, c'est d'être énervé par le fait qu'il y ait des gens qui refusent la réalité. Moi-même, ça m'arrive, je pêche contre la réalité 10 fois par jour. Il n'y a pas de quoi s'énerver.
Ne serait-ce qu'en étant distrait.
Oui, enfin, si on veut. Bon, mais il y a plus grave, je peux carrément être plus en faute. Mais l'énervement ou l'éloignement colérique où nous met toutes les manifestations qui vont dans le sens d'une contestation de la réalité ne devrait pas nous mettre en colère. Et pourtant, elle m'énerve. De même que pendant 31 ans, j'étais énervé de lire des inepties, c'est-à-dire de lire des copies de dissertations. Ça ne devrait pas m'énerver, après tout. C'est le problème de Pascal, les esprits boiteux, pourquoi nous énerveraient-ils ?
L'aphorisme de Pascal, c'est « d'où vient qu'un esprit boiteux nous irrite ?»
D'où vient que les boiteux ne nous irritent pas et que les esprits boiteux nous irritent ? Oui. Alors, La dernière chose, la plus difficile à surmonter, c'est la colère. Et je suis persuadé, puisque vous parlez de Spinoza, que toute son entreprise, toutes ses œuvres, c'est une traque pour effacer les dernières marques de colère.
Merci Clément Rosset, pas de colère donc, et comme c'est la joie qui a toujours chez vous le dernier mot, c'est autour d'elle et de la musique que nous terminerons demain cette série d'entretiens. C'était À Voix Nue, une série d'entretiens avec Clément Rosset proposée par Raphaël Antoven.
À Voix Nue, cette série d'entretiens avec le philosophe Clément Rosset, récemment disparu, a été enregistrée en 2006. Réalisation Doria Zénine, coordination Claire Poinsignon. À Voix Nue s'écoute en ligne et ce podcast sur franceculture.fr. Live jazz. Live jazz. Live jazz.